les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Le feuilleton de l'été continue, voici la partie 2. Pour rappel, nous sommes à la ferme du Grand Laval, à Montélier, en compagnie de Sébastien Blache, qui nous parle de son métier.
Qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille? Alors au début, moi, le premier truc qui me semblait urgent, c'était de passer les terres en agriculture biologique. Donc les passer en bio, c'est pas très compliqué en tant que tel, hein. Il faut prendre un organisme certificateur et arrêter et suivre le cahier des charges de l'agriculture biologique qui consiste à arrêter tout intrant chimique. Bon, ça c'est la règle, en gros c'est un peu un résumé, mais c'est ça. On a 3 ans comme ça, où le temps de conversion de terre ça dure 3 ans. Donc pendant 3 ans, on vend notre production non bio en chimie parce qu'elle n'est pas encore certifiée, mais on doit suivre dès le début le certificat. Le cahier des charges, donc du coup il y a des baisses de rendement parce que bah, forcément on ne suit plus la cadence quoi. Mais bon, moi j'étais double actif, c'était pas vraiment un problème. J'ai fait donc un truc avec un assolement assez simple. Et l'année d'après, je me suis dit, bon, de toute façon, j'étais parti sur 11 hectares, j'avais 11 hectares, du coup, il fallait quand même trouver une solution. Et trouver la solution, pour moi, c'est passer par l'arboriculture. Mais je ne me sentais pas du tout ni à la hauteur économique, technique, de mener un verger comme ça se mène aujourd'hui, avec des hautes densités, des investissements colossaux, de la main-d'œuvre, etc. Je ne me sentais pas du tout dans cette idée-là, quoi. Donc moi, j'ai créé un verger dans un premier temps qui était un peu comme le verger qui me fait le moins peur, c'est-à-dire des arbres plutôt espacés, diversifiés, avec la possibilité d'étaler les périodes de récolte, des variétés qui, a priori, n'étaient pas trop compliquées à mener, des espèces pas trop compliquées non plus à mener. Bon, tout ça, je me suis rendu compte que entre ce qu'on nous explique, ce qu'on apprend et la réalité, c'est très compliqué. Et notamment, l'arboriculture, c'est pas la meilleure idée en termes de sérénité, quoi. C'est en bio, c'est l'arboriculture en bio, c'est le Graal, quoi. C'est le truc le plus compliqué à faire. Je dis pas que c'est impossible. On le fait, mais c'est vraiment hyper intéressant et hyper compliqué. Et après, il s'est révélé qu'il y avait des cultures qui étaient finalement pas si compliquées que ça, alors qu'on nous disait, alors qu'il y avait des messages qui étaient véhiculés que c'était impossible à faire. Par exemple, le pêcher. On nous disait, ah, le pêcher en bio, c'est ingérable, il faut pas mettre de pêcher, donc j'en ai mis très peu. L'abricotier, ah, si, il faut mettre de l'abricotier et tout. Et là, c'était l'inverse, en fait, qu'on a constaté, c'est que l'abricotier en bio, c'est mission impossible. Et pour l'instant, on va dire, et la pêche en bio, c'est totalement gérable, quoi. Ça se fait très bien, quoi. Moyennant 2-3 bricoles, mais 2-3 bricoles. L'abricotier, à l'inverse, il y a 3-4 maladies qui sont sacrément emmerdantes. Et nous, on est dans une région, ici, sujet à un virus, l'enroulement chlorotique, qui nous anéantissent entre 10 et 20% des arbres chaque année. Voilà. Et on n'a aucune solution technique. Rien qui marche. L'avantage du coup de ce type de culture, c'est que c'est pas difficile de rien faire sur l'arbre. Puisque comme il n'y a rien qui marche, on fait rien, quoi. Donc on peut prétendre que c'est abricotier, ben on fait rien. Ils sont totalement sans intérêt, sans produit. Parce que tout ce qu'on peut faire en abricotier, c'est juste pour se rassurer. Tous les essais, les techniques, les essais menés par les différentes structures qui bossent montrent que en fait elles n'ont pas d'efficacité, quoi. C'est que juste des effets années, mais c'est pas des effets. Donc par exemple, il y a dès qu'il pleut sur les fleurs, on prend un champignon, ça s'appelle le Monilia. Il n'y a rien qui marche. Hein ?
Fongicide.
Voilà, donc là les fongicides, eux, ça marche. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui en sont conscients et qui ne passent pas en bio à cause du Monilia, quoi.
C'est ça, ouais.
Voilà. Parce que pour l'instant, il y a un truc là qui est le switch qui marche bien et du coup. Ils le font, quoi. Mais en bio, vous prenez la pluie sur fleur. Si vous avez une variété sensible au Monilia, tout sèche et vous perdez vos arbres. Enfin, vous perdez. C'est aussi efficace que le gel, le Monilia. Donc si vous avez résisté au gel, vous avez le deuxième effet qui se coule, c'est Monilla. Puis accessoirement, si vous êtes encore là, on peut vous taper un peu dessus avec la grêle aussi, c'est possible ça. Donc il y a moyen quand même de se faire peur.
Le tableau est complet.
Voilà. Après, la grêle, c'est voilà pour tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les abricotiers. Tout le monde y a droit. Si ça tombe, ça tombe, quoi. Mais en abricot, il y a ça. Et puis, il y a une maladie qui ne vous concerne pas trop, votre région de Saint-Hermitage, qui s'appelle ici la bactériose, qui est un virus là, très, très présent dans nos sols. Là, ici, c'est l'enfer, quoi. Bon, ça, on a trouvé une parade qui est de greffer eau sur pêcher. Et ça, ça marche. Donc, si on greffe eau sur pêcher, la bactériose, on est passé à travers. Mais l'ECA, pas de solution. Et le Monilla, ça y est, il commence à y avoir des variétés qui sont résistantes au Monilla. Donc, on va y arriver petit à petit. Et je pense que quand on aura passé l'ECA, on pourra imaginer qu'on pourra faire de l'abricotier. Nous, on s'accroche, on en fait. On en a repréparé là, cette année 400 en pépinière. Voilà, on essaie de résister, mais ce n'est pas le plus simple. Bon, tout ça, pour dire que l'arboriculture, par rapport aux grandes cultures, pour dire que la grande culture, c'est vraiment la balade. Hein. Les mecs en bio qui passent en grande culture en disant que c'est compliqué, je veux dire qu'il n'y a vraiment y a rien. Quoi. Surtout qu'en grande culture, on ne fait rien, en fait. On ne fait que semer, on a les rendements qui baissent, quoi. Voilà, c'est tout. Mais globalement, on fait à peu près tout pareil. Et il faut accepter de refaire un peu du tracteur pour refaire de la bineuse, quoi. Parce que les plantes sarclées, sans les biner, ben, on est dans l'herbe. Là, vous allez voir, on va biner les tournesols. Vous voyez que si on n'intervient pas, ben, dans deux semaines, on est dans sa herbe, quoi. Et après, par contre, les céréales à paille, les binages dans les céréales à paille, ben, moi, je pense que franchement, dans des bonnes rotations, ça ne sert vraiment à rien. Si, c'est très efficace pour virer un truc que nous, on essaie de favoriser, c'est les plantes messicoles, quoi. Et donc, il y a peut-être d'autres solutions, c'est de finir par réduire. Et petit à petit, la philosophie qu'on a mis en place sur la ferme, donc au démarrage, au moment où j'ai repris le truc, moi, je me suis fortement, du coup, investi dans ce qui me semblait être le plus facile, et surtout ce que tout le monde faisait, c'est planter des... Ici, il n'y avait pas d'arbres, donc planter des... Donc, on a toutes les parcelles, on les a entourées des... Donc, ça veut dire qu'on a mis des haies partout, je ne sais pas combien, j'ai foutu des kilomètres de haies. J'allais au bord du Rhône, j'ai de partout, j'en ai récupéré pas loin de chez vous. Comme je faisais de l'ornitho toute la journée, quand je faisais mon point d'écoute, j'étais là, bon là il y a un petit sommet de frêne, donc c'est là il y a de l'érable ici dans cette région. Et après, arrivé dans l'hiver, j'ai pris mon camion bleu et je suis allé faire tous les semis que je connaissais dans les friches, les gravières du bord du Rhône, les semidoles, toutes les zones que vous voyez, c'est des glutineux, de la roche de glin, quoi. Sous le barrage, dans un dépôt, pouf, grosse levée, j'étais forestier, quoi. Et du coup, je tirais mes arbres et ça ne me coûtait rien, et surtout, ils étaient locaux, ces arbres. Alors, je me suis un peu planté parce qu'à un moment, je suis allé taper vers Tournon, il y a un ancien pépinier, je ne savais pas, j'ai tiré du mirobolant, moi, comme un con, et j'ai replanté un peu du mirobolant. Mais je ne savais pas trop ce que je foutais, je croyais que c'était du prunier sauvage, mais en fait, je me suis planté. Mais du coup, planter des haies, petit à petit, la ferme est devenue un peu plus, on va dire, sérieuse. Et il a fallu se rendre à l'évidence qu'il y avait un choix à faire, quoi. Soit je restais à la LPO double actif, soit j'arrêtais tout et puis je faisais paysan, parce que là, je ne pouvais plus durer comme ça. On avait repris un peu de la surface. Donc là, aujourd'hui, on est sur une situation qui est... pour l'instant, on est un peu bancal, je pense que ça va peut-être se résoudre là, il y a peut-être des bons trucs là. Donc on est à deux avec Elsa à travailler, on est passé en GAEC. Donc ça veut dire un GAEC, c'est une société agricole où on travaille à part égale en termes de revenus, il y a des obligations de revenus, il y a des obligations de part sociale. Donc c'est la structure agricole faite pour les paysans qui est la plus, moi je dirais... la plus égalitaire de ce qu'on puisse avoir et la plus transparente parce que en fait tout quand on est en GAEC, tous les revenus du paysan doivent être issus de la ferme. On ne peut pas travailler à l'extérieur quand on est en GAEC. Ou il faut demander une dérogation au préfet et on ne peut pas dépasser 20%. Si je veux faire, je dis n'importe quoi, expert en je sais pas quoi, si c'est pas dans le sujet, en gros on nous le refuse, quoi. Il faut monter une autre société à côté, quoi. Donc nous, tous nos revenus, ils sortent de la ferme. Et c'est d'autant mieux aujourd'hui
qu'on s'investit fortement sur la question de la biodiversité. Je regarde en même temps un faucon là, mais je pense que c'est le cresserelle de la ferme, ouais, c'est ça. On s'investit d'autant plus qu'on a créé deux associations sur la ferme et qui commencent à voilà, on est allé chercher un peu des fonds pour faire des choses, je vais vous en parler. Et du coup, c'est en toute transparence, quoi. Nous, c'est que la CD des assos, c'est que pour le plaisir, quoi. On n'en tire strictement aucun bénéfice, il n'y a pas de lien possible. Et en 2000, alors moi, je me suis installé en 2006, je pense de 2010 par là, 4-5 ans plus tard, j'ai baissé mon temps de travail. Puis après, ça a commencé à baisser. Puis après, quand je suis arrivé à 50%, là, c'était plus tenable, quoi. Et en 2015, je crois que c'est ça, je sais plus, 2015, j'ai arrêté, ouais. 2015, du jour au lendemain, j'ai fait, ouais, on arrête, stop. Et je me suis mis sur la ferme. Je me suis mis sur la ferme et là, voilà, ça a été une nouvelle installation parce que là, il a vraiment, là, c'est devenu du sérieux. Ouais, il faut casser sa croûte, quoi, pour de bon. Et c'est pas si simple que ça de vivre sur une ferme, quoi. C'est quand même la barre, elle est haute. J'ai beaucoup de travail et il faut pas rater son coup parce que finalement, mais on se rend pas compte, mais enfin si vous vous rendez compte, sûrement, je sais pas ce que vous avez tous fait, mais pour gagner, je dis n'importe quoi, 1000 ou 2000 euros, il faut que la structure elle brasse sacrément de l'argent parce qu'il y a beaucoup de charges à payer. Et que voilà, bah c'est comme ça, c'est notre société, elle fonctionne comme ça. Moi, je suis tout à fait d'accord de payer des charges. Mais du coup, pour aller jusqu'à un salaire, faut que ça tourne, quoi. Faut des chiffres d'affaires, faut des marges, faut tout ça, quoi. Donc ça m'a mis un peu la pression. Et puis le modèle qu'on avait choisi semblait bien fonctionner. Et finalement, ça a très bien marché. Donc nous, le modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle en polyculture élevage. Donc aujourd'hui, on a 17 hectares en fermage et une trentaine qu'on nous prête. Donc on est pratiquement sur une petite cinquantaine d'hectares, on va dire, maintenant. Je dis des fois, je dis 30, je dis 40, je ne sais plus trop où j'en suis, quoi. On est tout en bio. En fait, en gros, voilà comment ça fonctionne. On a 3 hectares d'arbres fruitiers. On a 180 pondeuses, poules, 120 brebis. Et le reste en grande culture. Et tout est en interaction. Petit à petit, le modèle s'est mis en place, mais ce qui a semblé le plus efficace et le plus pertinent, ça a été de réfléchir comme en écologie un écosystème. En fait, l'agriculture, une ferme paysanne, à mon sens, c'est très proche du fonctionnement d'un écosystème. Et si on veut que ça tourne, moins on est dépendant des intrants, plus on est en capacité à résister et à tenir le coup en cas de problème, quoi. Le fameux proverbe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ben ça c'est. Là vous le voyez, mais vraiment, quoi. Mais après, il y a une contrepartie à ça, c'est qu'il y a un travail de fou, quoi. C'est que plus vous avez d'ateliers, on va dire, hein, pour se comprendre, plus il faut apprendre. C'est les hirondelles qui arrivent et qui commencent à chanter, on est content parce que là on est en train de faire une expérience pour le retour d'une. On essaie de faire revenir une colonie. On fait de la repasse et on a mis plein de nichoirs et là elle tourne en ce moment. Donc on croise les doigts. Je pense pas que cette année, mais c'est quand même bien parti. Et on a beaucoup de travail. On fait que de la vente directe du coup. Ça nous permet de. Les marges, la marge, c'est pour nous, c'est pas pour. Donc je sais pas si vous. Enfin, si vous avez des notions, mais en gros, grosso modo, la valeur ajoutée sur une ferme, c'est quand vous collectez, quand vous récoltez pour 100 euros de produit, qu'est-ce qui vous reste réellement? Combien il vous a fallu pour d'extérieur? Combien sont repartis à l'extérieur pour ces 100 euros? On va dire qu'une ferme, quand elle fait 40% de valeur ajoutée, donc elle vend 100 kg de pommes, il lui reste 40 euros une fois qu'elle a tout payé, c'est déjà hyper élevé. C'est formidable. Les fermes qui sont hyper spécialisées en modèle circuit mégalon, type modèle breton, les mecs sont à 2-3%. Quoi. Il leur faut 100 balles, il leur en reste 3. Quoi. Donc là, il faut des porcheries énormes, il faut des machins pour gagner sa vie. Ben, nous, sur la ferme, c'est 70%.
Ah
Donc du coup, c'est très élevé. Et ça, c'est parce que on n'achète quasi rien à l'extérieur et on n'a pas recours à la main d'œuvre. Parce que c'est la main d'œuvre hein, aussi qui est problématique. Et on n'achète rien à l'extérieur, alors pas tout à fait rien, mais moi sur la ferme, depuis que je suis là, j'ai jamais acheté un engrais. Nous, on fait vraiment de l'agronomie, de l'agroécologie. Ça fait 10 000 ans que les paysans, ils ont pu travailler que avec ce que le sol est en capacité de donner. Et ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut balancer des unités d'azote, de potasse et de phosphore et des phytos pour vivre. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi si on met en place un système dont les rendements, les nouvelles références sont ceux que produit l'agriculture chimique, qui sont des rendements, faut le reconnaître, très élevés, mais soutenus par tout ce dispositif qui ne permettrait pas à la plante de le faire. Et je dis toujours, c'est exactement si aujourd'hui on vous disait, ben voilà, courir c'est bien, mais là, ce qu'on va vous demander, c'est que chaque fois que vous vous déplacez, vous courez comme un marathonien. En dessous de 25 km/h, vous ne valez rien, vous partez au rebut. Quoi. Faire 95 taux de blé chaque année pour être capable de vivre, c'est votre blé, vous lui demandez de faire le marathon, c'est tout. Quoi. Donc il n'y a plus de rapport avec votre sol. C'est comme ça qu'on en est arrivé avec ces fameux sols qui sont des sols supports. Quoi. Voilà, ce sont des sols supports, ils ne sont pas morts, mais ce n'est pas eux qui sont capables de produire 95 taux de blé, c'est pas eux. C'est l'azote qu'on apporte dans le sol, les fongicides, c'est parce que si on apporte beaucoup d'azote, ça pousse fort. Donc du coup, les ravageurs, enfin bref, vous vous rapportez à des ouvrages là, produits par l'atelier paysan, qui a un travail sociologique très fort sur ces questions-là, et qui vous démontre que en fait, dès la sortie de guerre, c'est une stratégie commerciale en fait. C'est pas une stratégie, c'est, la réalité, c'est pas on a faim. C'est la réalité, c'est on va faire de l'argent avec l'agriculture. Ce qu'on a réussi avec l'industrie, on va le répliquer avec l'agriculture. Et pour faire ça, il faut aussi construire ça sur des slogans et sur des idées qu'on est arrivé à ancrer profondément et qui continuent à être ancrées, mais profondément. Mais c'est absolument terrible.
Des agriculteurs qui sont conventionnels.
Ah ben juste.
On leur parle seulement du bio, ils disent ah oui, mais pour nourrir la population qui augmente toujours.
On ne peut pas faire avec ça.
On ne peut pas, c'est impossible. Voilà. C'est encore véhiculé.
C'est ça. Et le problème, c'est que toutes les informations sont disponibles aujourd'hui pour comprendre en fait et décortiquer ça. Et quand on expose à un paysan, encore je l'ai fait il y a très peu de temps avec mes voisins, je discutais avec un ancien qui a pris sa retraite en conventionnel en grande culture, il me faisait exactement cette même démonstration et je lui disais mais qu'est-ce que t'en fais de ne serait-ce que cette idée, qui n'est pas une idée, de cette information que je vais te donner, que tu n'as peut-être pas, qu'aujourd'hui pour produire une calorie d'énergie issue de l'aliment, il en faut entre 7 et 9. C'est-à-dire que l'agriculture sur ce modèle-là, qui est, on dit, l'agriculture extractiviste, elle est complètement bidon. Mais bidon. C'est-à-dire qu'on ne fait que brasser de l'air. Mais en plus, on brasse de l'air avec un rendement qui est celui de l'Europe et des États-Unis, des fameux, il faut entre 4 et 6 planètes pour continuer à vivre dans notre truc. C'est-à-dire, heureusement que la moitié de l'humanité crève la dalle et en dessous du seuil de pauvreté, sinon on ne pourrait pas. Non. Heureusement qu'il y en a qui vivent à 1 euro par jour, parce que nous, avec notre niveau de vie et notre machin, nous, on est sur une toute petite partie, mais on est déjà sur cette planète. Donc l'agriculture qui consomme plus que ce qu'elle produit, ce qui est le cas, et ça, c'est étudié, démontré par tout le monde, quoi, INRA, CNRS, machin, par des calculs dans tous les sens. Déjà, rien que ça montre que c'est une méga fumisterie. Par contre, c'est extrêmement efficace pour faire du point de PIB, donc de la valeur ajoutée, de la valeur du commerce extérieur, alors que l'agriculture paysanne, elle ne fait zéro PIB, donc elle n'intéresse absolument pas l'économie générale, puisqu'elle n'y contribue pas. Et c'est surtout très bien pour l'essentiel des industriels de l'agriculture pour s'enrichir. Quoi. Ils se gavent complet. Quoi.
Parce que quand vous achetez votre paquet de gâteaux aujourd'hui, regardez le kilo de farine que auquel vous payez, vous allez prendre peur. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, un paysan lu, moi j'ai plongé, parce que je faisais beaucoup de plongée à un moment donné, j'ai plongé sur un bateau avec des gens qui étaient fortunés et il y avait la DRH des, du coup vous n'allez plus en acheter mais c'est pas grave, des palais bretons, vous savez ces trucs. La DRH des palais bretons, elle était machin, elle avait l'air très heureuse. On sympathise, elle discute. Et en fait, donc eux ils achètent du blé, hein. Ils achètent du blé, ils achètent de la farine, hein, mais c'est. Ils rajoutent un peu d'huile, un peu de levure, un peu d'œuf, puis ils font un gâteau qu'ils vous vendent. Du coup, la farine, elle passe de 100 balles, parce qu'ils l'achètent à un paysan, le blé, il achète 150 euros la tonne à peu près, quoi. En conventionnel, ça, c'est en train de flamber, là, ça passe à 200, mais on va dire 150 euros la tonne. Bah, votre paquet de gâteau, il vaut combien? Un paquet de gâteau, c'est 3-4 euros à peu près. Hein, dans ces eaux-là, à peu près 3-4 euros. Et il y a un paquet de gâteau, c'est 100 grammes à peu près, 120 grammes. Voilà. Donc en fait, la farine, les mecs, ils font une culbute de fois, pratiquement fois, combien ça ferait ça? Non, plus de 100. Ils font une progression de plus de 100. Donc les mecs, d'un seul coup, la farine, elle passe à 5, 6, 7, 8 000 euros la tonne. Mais ouais, on en est là. Hein. Bah, la DRH de chez Palais Breton, elle gagne, puisqu'elle m'a dit, elle gagne 20 000 euros par mois. Voilà. 20 000 sans ses primes, 20 000 balles par mois. Voilà. Sympa, hein. Et pendant ce temps, les paysans, ils ont toujours dans l'idée qu'il faut produire toujours plus, parce que sinon, on va vraiment crever la dalle. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, l'OMS l'avait déjà sorti. Dernièrement, il y a toute une série de publications, pareil encore une fois, de l'INRA et de qui se mouillent, hein, là-dessus, qui montrent que si on faisait tous de l'agriculture paysanne en agriculture biologique, non seulement on nourrirait absolument tout le monde, mais en plus, non, on pourrait même encore faire de l'exportation. En tout cas, voilà, force est de constater que. Cette idée de rendement de cinglé, ça le fait pas. Et nous, ce qu'on voit du coup, c'est que quand on travaille sans apporter d'engrais, sans fertiliser les sols, en travaillant uniquement sur ce que la nature elle sait faire. La nature elle sait faire quoi? La nature elle sait mobiliser une plante, vous le savez peut-être, tous j'imagine, mais pour qu'une plante fonctionne, il y a trois éléments nutritifs. L'azote, le potasse et le phosphore. Okay, et ensuite, avec le soleil, elle fait la photosynthèse, de la flotte, et ça tourne en rond. L'azote, il y en a blindé dans l'air, via la matière organique et certaines plantes qui sont capables de la capter avec des notosités, donc des associations avec des bactéries, on sait aller en chercher et en réinjecter dans les sols. Par contre, le potasse et le phosphore, il faut faire avec ce qu'on a. Aujourd'hui, le potasse et le phosphore, ça vient de l'extérieur. Le phosphore, c'est des mines. Il y a 5 mines dans le monde. Elles sont toutes au bois, toutes en passe d'être épuisées. Et on n'en a pas retrouvé. Sur la ferme, on a deux géologues là. Enfin, ils se sont installés, mais on a créé un espace test pendant 6 ans. Donc, on avait des maraîchers qui se testaient. C'était deux géologues qui travaillaient pour les mines, qui étaient là. Donc, on a pu bien discuter. C'est fini le phosphore. Sauf que le phosphore. Tout le monde en a besoin, mais à des niveaux incroyables. Donc quand on va ne plus avoir de phosphore, il va bien falloir se débrouiller avec ce qu'il y a dans le sol. Et du coup, la potasse et le phosphore, c'est dans le sol, c'est issu en fait de la des dépôts, on va dire, océaniques, et surtout d'un autre élément qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il n'y aurait pas d'agriculture en Europe sans la forêt. On est en fait sur une forêt morte. Toute la fertilité de nos sols est liée à la forêt qui est renée après les dernières glaciations et qui a été enlevée par des défrichements, par les Romains essentiellement, et qui a laissé par son système racinaire une masse colossale de potasse et de phosphore. Les alluvions qui sont descendues également
des différents fleuves qui transportent toute cette matière organique et qui l'ont redéposée. Donc sans la forêt, on est vraiment des agriculteurs de la forêt. On fait la guerre aux arbres. Or, c'est les arbres qui nous ont permis, pendant longtemps, avant l'agriculture chimique, de fonctionner. Donc si on revient sur cette idée que les sols, ils sont vivants, et que les sols, ils ont ils ont des capacités d'azote, de potasse et de phosphore qui sont disponibles, mais si on sait aller les chercher, et si on n'en demande pas trop, et si on n'est pas dans un système où on vend tout en permanence à l'extérieur, donc on réduit la voilure, on consomme le moins possible. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu notre avenir ça, la sobriété, parce qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à se cartonner comme ça pendant 5000 ans. Enfin, moi j'ai pas l'impression qu'on va être capable de fabriquer des terres rares quand on n'aura plus de terres rares. Là, tous les trucs, les fausses bonnes idées du moment, là, on voit bien que les projections à 30 ans déjà les mecs vivent. Ah ouais, alors le cuivre, on a consommé en 50 ans ce que l'humanité avait consommé jusque-là, quoi. On en est à des niveaux comme ça, c'est du délire complet. Donc on se dit, bon, ouais, on peut continuer à imaginer que ça soit comme ça tout le monde, mais le changement climatique, les mecs disent, bon, à 2 degrés, ça c'est si tout va bien, mais de toute façon, comme tout, personne ne va pouvoir changer, c'est impossible, on va se prendre 5 dans la tête. Je ne veux pas être pessimiste, hein.
C'est invivable, hein. Ça sera invivable.
Ouais, mais c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer. Donc du coup, à part réduire la consommation, on peut faire quoi? À part faire avec les ressources, on peut faire quoi si de toute façon elles n'y sont pas? Puis regardez aujourd'hui les paysans, il suffit qu'on spécule sur la guerre en Ukraine, parce qu'on voit tous maintenant, on est tous, notre principal fournisseur c'est l'Ukraine. Hein, vous voyez, on le voit, c'est incroyable, tout explose les prix là en agricole, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors je ne sais pas pourquoi le lien avec la guerre en Ukraine, quoi. Mais bon, il y a tout est en train d'exploser avec ça. Ça y est, les engrais sont à 1000 euros la tonne. Donc le prix monte, mais ça fait comme ça. Et tout le monde fait ça. Et à un moment donné, ça va pas. C'est impossible. Donc aujourd'hui, nous, notre pari, c'est de dire, bah, on fait pas ça. Moi, je joue pas dans cette combine. Moi, acheter des poules pondeuses prêtes à pondre, des hybrides, il y a 5 groupes mondiaux maintenant qui dominent la production de la poule dans le monde. Ils sont 5. C'est pire que Monsanto, les poules pondeuses. Il y a un Français, un Allemand et 2 Américains. Voilà. Puis un Italien. C'est toutes les poules du monde sont produites par Hendrix, Trucmuche, par Grimaud. Et voilà. Vous voyez le bordel de la grippe aviaire là? C'est uniquement parce qu'ils sont tous, c'est le même qui se boucle. Moi j'ai pas envie de passer balancer ma thune dans ces gens-là, quoi. C'est bon, quoi. Donc quand vous dites, la seule solution, c'est débrouillez-vous, soyez autonome. Les mecs, ils étaient autonomes jusque-là, ils vivaient, ils se débrouillaient. Donc, finalement, nous, le pari, ça a été de se dire, on va retourner, on va faire comme un système en écologie, on va essayer de retrouver de l'autonomie. Et l'autonomie, elle passe par reprendre sa capacité de produire ses animaux, reprendre sa capacité de produire, de faire ses semences, reprendre la capacité de la fertilité de ses sols. Et il y en a encore sur lequel on est très très loin de l'avoir. L'énergie, moi j'ai pas de solution aujourd'hui. Je sais pas du tout comment on peut faire, quoi. Parce que moi j'ai pas du tout envie de lâcher mon tracteur, en fait, à vrai dire. Et quand on commence à réfléchir à traction animale, traction, va falloir réduire la surface des fermes, hein, parce que là, franchement, nous on travaillait au début sur 17 hectares, c'était la surface moyenne des fermes, ça jusqu'après guerre, c'était 15 hectares ici, mais ils étaient 8 à bosser dessus. Hein. Parce que, et il n'y avait que 3 hectares de blé, hein. Tout le reste c'était des prairies. Hein. Parce que c'était pas gérable. Hein. Parce qu'au cheval, vous n'en faites pas non plus des centaines d'hectares, hein. C'est pas possible. Hein. Alors à la main, encore moins. Hein. Donc si aujourd'hui, pour vivre, selon les critères proposés ces 50 dernières années, il faut là aujourd'hui 120-130 hectares, ça, je sais pas comment on va faire. Hein. Donc moi, j'ai pas trouvé de solution par rapport à cette question de l'énergie et de ce qu'il nous faut, mais on sent bien que ça, c'est le gros, gros problème, quoi. Tout le reste, c'est facile, mais ça, c'est le gros souci, quoi. Comment faire pour produire de la force et tirer sans gasoil, sans fausses bonnes idées non plus, parce que les bonnes idées, c'est créer une énergie propre, mais qui augmente encore la consommation, quoi.
Ça dérégule le travail du sol, quand même, hein, plutôt. Et le travail du sol, nous, on l'a réduit par nos cultures, en fait. Aujourd'hui, on est donc sur en polyculture, on est très diversifié, ce qui fait qu'on laboure 30% par an, à peu près.
Ça réduit quand même la consommation d'énergie.
Ça réduit énormément. Moi, nous, aujourd'hui, il nous faut 2000 litres sur la ferme, pour 40 hectares. Quoi. Mais il les faut quand même. Et pour arroser, il faut de l'électricité pour les pompes. Moi, je ne pédale pas derrière, hein. Donc il me faut.
Et pour arroser, vous avez l'eau comment?
Alors nous, on est une vanne incroyable, c'est qu'on est à côté du canal de la Bourne, là. Donc on a un gravitaire que j'utilise même pas. Et on a un petit canal là qui est en fait une galerie creusée sur laquelle on a un droit d'eau. Et c'est une galerie qui avait été faite par nos ancêtres au 19e là, et qui fait un débit considérable puisqu'elle émet 250 mètres cubeurs cette galerie. Il y a une galerie qui fait 2 km dans les graviers. Ils ont creusé à la main, en suivant les trous. Ils sont à 10 mètres sous terre. On l'a visité plusieurs fois là, avec mon père. C'est un Y comme ça. Et en fait, c'est l'eau de surface de la nappe, quoi. Des 10 mètres, là, ils coupent les veines et puis ça coule. Ils en ont fait plein ici, hein. Et la plupart ne marchent pas. Et puis des fois, il y en avait qui marchaient très bien. Et celle-là, elle marche très bien. Et du coup, après, on sort 2 millions de mètres cubes de flotte par an. D'eau de la nappe. Non, sans interrogation, hein, parce qu'aujourd'hui, restriction du volume d'eau, le bassin versant, il est déficitaire, etc. Donc, l'agence de l'eau s'interroge sur le devenir de ce genre de truc. Les paysans, on en dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a une autorisation préfectorale de prélèvement.
Oui.
Voilà, chaque année...
Oui,
ça diminue. Chaque année, en fait, on redemande l'autorisation de prélèvement. Mais tout comme tout le monde, hein, aujourd'hui, tous ceux qui ont des puits, ils ont tous à demander une autorisation de prélèvement. En tout cas, dans la plaine de Valence, le bureau d'études là, de Grenoble qui a travaillé sur la nappe, enfin sur le bassin versant, il faudrait réduire de 100% pour être dans les critères de renouvelabilité. De renouvelabilité.
C'est dans le cadre du sol,
non? Ouais. En fait, on ne pourrait plus prélever. Plus personne. Donc le préfet, il a dit, on va peut-être trouver un truc intermédiaire. La chambre est montée au créneau à péter des câbles direct. Là, ce qui est annoncé, c'est moins 40. Hein.
Ça y est.
On est en cours, là. Moins 40, c'est pas rien. Hein. Moins 40 de prélèvement.
Donc nous, vous allez passer de 2 millions.
Bah non, nous, on escrète 2 millions, mais sur les 2 millions, on a 180 mm cubes de flotte autorisée, c'est tout. L'essentiel de l'eau, on le fait passer, on le fait continuer. Donc du coup, tant qu'à faire, moi j'ai œuvré et j'œuvre. Non, sans mal, mais maintenant je n'ai plus rien à foutre en fait. Pour faire en sorte que cette eau qui passe sur la terre, là, sur la ferme, elle ne fasse pas que passer. Quoi. Mais elle joue son rôle de fonctionnalité écologique. Donc ça veut dire quoi? Faire une fonctionnalité écologique, ça veut dire recréer un écosystème qui fasse que de nouveau, il y a des libellules. Nous, on attend, moi j'attends, et d'ailleurs, il faut qu'on trouve une solution, on attend avec impatience le retour du castor, quoi. Pour que le castor gère les volumes d'eau. C'est du très sérieux, ça, hein, ce que je dis. Hein. C'est pas une blague. Hein. Genre, là, ce week-end, on a eu un rassemblement sur la ferme. Il y avait une Californienne, enfin, quelqu'un qui travaille en Californie. Et en Californie, la situation, elle est terrible sur la flotte. Et bien, en fait, aujourd'hui, ils sont en train de miser sur le castor. Parce qu'en fait, si vous avez un cours d'eau qui descend, si vous voulez retenir l'eau et gérer l'écoulement de l'eau le plus uniquement possible, le mieux possible, le plus finement possible, eh bien, il n'y a que le castor qui sait le faire pour moi.
C'est incroyable.
Le castor, il sait parfaitement gérer une lame d'eau. Il bosse tous les jours pour vous. Il gère des écoulements, des niveaux, ça déborde, ça coule toujours. Hein. Ça ne fait pas un étang. Hein. Mais c'est lui qui retient le mieux et c'est lui qui régénère le plus d'écosystèmes. Et en Californie, donc, il y a des paysans aujourd'hui qui misent sur le retour du castor pour pouvoir garder l'eau sur les terres. Changement de mentalité. Hein. Nous, on n'en est pas encore à ça parce que les castors, pour l'instant, ils sont à 20 km. Il y a trois fois j'ai détecté du castor. Pour l'instant, il ne s'est pas encore installé. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que du coup, maintenant, depuis toujours, mais on essaie de miser notre survie, mais notre fonctionnement sur le retour du sauvage sur la ferme.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Sébastien nous parlera de son sujet de prédilection, le retour du sauvage sur sa ferme. C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.